Sujet de ce soir, le titre va vous faire frémir, frémir d'horreur, c'est le combat spirituel. Déjà je vous vois sourire, parce que vous dites quelle drôle de conférence. Ça c'est bon pour les hommes, mais enfin, c'est pas pour les femmes quand même. Se battre, non, nous c'est la douceur féminine. Non, je vous rassure tout de suite, je vais pas vous faire une démonstration de judo ou de karaté. Mais après ce qu'on vient d'entendre quand même, les Christéros, vous voyez que ces jeunes filles et ces dames se mettaient au combat comme en Vendée. Non, tout simplement, on vous a bien sûr parlé du bon Dieu, du péché, de la grâce, de la confession. Je pense que vous avez bien compris que nous sommes faits pour Dieu. Mais qu'évidemment, nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi, le démon qui veut nous en détourner, qui veut nous détourner de notre but, comme il l'a fait pour Adam et Ève. Donc, en clair, nous sommes faits pour Dieu, nous essayons d'aller vers Dieu, mais il y a le démon qui nous empêche. Donc, ça fait quoi? Ça fait un combat, forcément. Il y a deux parties en présence. Nous sommes donc dans un combat. Alors, pour bien vous le montrer, je vous cite tout simplement Saint Paul. Comme ça, vous n'oserez pas critiquer Saint Paul. Donc, c'est dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 10 et suivant. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu. Donc mettez une armure, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, vous êtes bien armés maintenant. Donc, vous voyez, Saint Paul nous fait toute une description comment nous devons être armés pour combattre les puissances des ténèbres. Donc, nous sommes bien dans un combat spirituel. Alors, dans un combat, que faut-il faire? Eh bien, quelque chose d'abord de très utile, c'est connaître ses amis, déjà, et puis connaître ses ennemis. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Non, ce qui va faire que nous allons voir un petit peu deux parties, nous allons voir d'abord le discernement des esprits, justement, quels sont nos ennemis, et puis ensuite nous verrons quelques règles pratiques du combat spirituel, quelques prises de judo spirituel. Alors, discernement des esprits. Alors attention déjà, définition des termes. On entend par esprit, non pas esprit es-tu là, mais on entend esprit, la propension à juger, c'est-à-dire à vouloir, à agir dans un sens ou dans un autre. Par exemple, peut-être vous a-t-on dit pour certaines, vous avez l'esprit de contradiction. Il y en a qui sourient, donc je pense qu'elles l'ont déjà entendu. Donc, c'est dans ce sens que nous employons ce terme, esprit, discernement des esprits. Quel est, disons, dans quel sens, en général, nous nous dirigeons dans notre activité? Ce qui fait qu'en spiritualité, nous distinguons en général trois sortes d'esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit de nature et l'esprit du démon. Alors, l'esprit de Dieu veut dire on juge selon Dieu. Donc, nous avons les mêmes vues un petit peu que Dieu. C'est-à-dire, on essaie de voir qu'est-ce que Dieu veut. Donc, on va dans le sens voulu par Dieu. L'esprit qu'on appelle de nature ou l'esprit purement naturel. Cet esprit procède de notre nature déchue. Évidemment, attention, la nature déchue, donc pas celle avant le péché originel. Donc là aussi, rappelez-vous la conférence de Mgr Lefebvre que nous avons entendue, où il parle de, bon, reprenant saint Thomas, les quatre blessures du péché originel. La blessure d'ignorance, la blessure de malice, la blessure de faiblesse et la blessure de concupiscence. Bon, ignorance, malice, on se porte vers de faux biens, faiblesse, bon effet, concupiscence, amour désordonné des plaisirs sensibles. Donc, c'est cet esprit qui procède donc de cette nature déchue. Alors, de temps en temps, évidemment, cet esprit de nature peut avoir des enthousiasmes, j'allais dire, momentanés qui peuvent faire illusion. Donc, on en parlera un peu plus tard. Et puis, troisième esprit, l'esprit du démon. Là, l'esprit du démon, c'est-à-dire on va dans le sens souhaité par notre adversaire. Et notre adversaire, justement, lui, a intérêt à se cacher et à se déguiser en ange de lumière. Donc, il va falloir essayer de trouver ses ruses. Là aussi, saint Jean, dans sa première épître, chapitre 4, tout au début, nous dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. » Oui, saint Jean nous le dit. Attention, ne vous fiez pas à tout. Il faut éprouver les esprits. C'est-à-dire, on a une tendance à vouloir aller dans ce sens-là, à faire telle ou telle chose. Mais il ne faut pas se dire « c'est forcément de Dieu ». J'ai une pensée, elle est forcément de Dieu. Non, il va falloir éprouver. Parce que le démon, effectivement, peut se cacher, peut se déguiser en ange de lumière. Voilà donc en gros les trois sortes d'esprits que l'on distingue en général dans la théologie spirituelle. Alors ensuite, si on l'applique à nous-mêmes, eh bien dans une âme, en général, un des trois esprits domine, en général. Un de ces trois esprits. Bon, si on caricature un petit peu, on va dire dans le pervers, évidemment, c'est l'esprit du démon. Le pervers, celui qui vraiment n'agit, qui suit toutes les tentations, qui succombe, qui les devance même, ça, évidemment, c'est l'esprit du démon. Vous avez ensuite les tièdes. Dans les tièdes, eh bien, ça sera plutôt l'esprit de nature, l'esprit naturel. Et puis, dans ceux qui commencent à se donner sérieusement à la vie intérieure, donc qui cherchent sérieusement à mener une vie chrétienne, eh bien, c'est l'esprit de Dieu qui domine habituellement. Habituellement. Mais bien sûr, il y a des ingérences aussi de l'esprit naturel, voire même de l'esprit du mal. Ce qui fait qu'on doit, entre parenthèses, ne jamais juger quelqu'un sur un ou deux actes isolés. Parce qu'une personne peut commettre une faute et en tirer tout de suite comme conséquence qu'elle est dirigée par l'esprit du démon. Non, la conséquence n'est pas légitime. Parce qu'encore une fois, on peut essayer de mener une vie chrétienne et puis bon, bah, malheureusement, on peut chuter. Mais c'est pas pour cela que nous sommes forcément sous la coupe, sous l'esprit du démon. Et même chez des parfaits, Dieu peut permettre certaines imperfections, souvent plus apparentes que réelles, pour les maintenir dans l'humilité. Vous avez même des grands des saints qui ont commis des fautes, bon, ben ça leur permet de s'humilier et de repartir. Donc c'est pour ça, ne jamais juger une personne uniquement sur un acte. Donc, vous voyez, en général, un des trois esprits domine plus ou moins. Alors, bien sûr, pour chacun d'entre nous, ensuite, bien, il importe de bien discerner quel esprit nous meut. Est-ce que c'est le démon qui me pousse à faire telle chose, par exemple? Cette inspiration vient-elle de Dieu ou vient-elle de ma nature déchue? Comment faire? Comment faire? Alors, bien sûr, notre Seigneur nous a donné un grand principe de discernement des esprits. Donc, il nous connaît bien. Il nous a donné donc un grand principe. Grand principe dont on le trouve dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 7, verset 15 et suivant. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà la grande règle du discernement des esprits que nous donne notre Seigneur. L'arbre se manifeste à ses fruits. C'est-à-dire, bien, si notre volonté foncière est bonne, elle va porter de bons fruits. Si notre volonté est mauvaise, elle va porter de mauvais fruits. Donc on juge bien l'arbre à ses fruits. Alors essayons quand même de rentrer un peu plus dans les détails pour vous donner quelques signes. Comment reconnaître un petit peu chacun des esprits par quelques signes. Moi, je vous mets en garde tout de suite, c'est juste quelques indications. C'est toujours un petit peu dangereux, c'est comme lorsqu'on consulte un livre de médecine, on a l'impression d'avoir toutes les maladies, quoi, quand on les lit. On a pas ça, oui, c'est ça, oui, mon pouls, oui, donc je suis certainement, je sais pas quoi, j'ai certainement une sclérose en plaques, c'est vrai. Donc, on a l'impression d'être toujours malade, quoi. Alors, les quelques signes que je vous donne, ne croyez pas que forcément vous êtes dedans, que, non. Ce qu'on peut avoir, c'est effectivement chacun, on peut avoir quelques indications qu'on retrouve un petit peu dans les trois esprits. Bon, ensuite c'est à nous de faire le tri et puis de combattre ce qu'il y a de mauvais. Alors d'abord les signes de l'esprit de nature. Donc on commence par l'esprit naturel. Quels sont les signes? Alors déjà, remarquez que notre nature, après le péché originel, est ennemie de la mortification. Nous n'aimons pas la mortification, nous n'aimons pas les humiliations. Donc déjà, en être persuadé. Alors, on va chercher la nature, même dans la vie spirituelle, notre nature déchue va poursuivre surtout le plaisir. On va même tomber, par exemple, dans la gourmandise spirituelle, c'est-à-dire, on va pouvoir lire que ce qui nous plaît, ou n'écouter que ce qui nous fait quelque plaisir. Par contre, si un prêtre a un malheur de faire un sermon qui nous plaît pas, bien surtout ce prêtre est bon à jeter aux orties. Et puis évidemment, il nous a pas compris, etc. Et cette recherche du plaisir dans notre nature déchue, bien va faire souvent que dans les premières difficultés ou les premières sécheresses, on va s'arrêter, on va quitter la vie intérieure. Oh ben, la retraite, je savais pas que c'était aussi dur. Bon, ben, merci, monsieur l'abbé, au revoir, à la prochaine. Donc, on commence à rencontrer des difficultés, non, on trouve plus son plaisir, donc on abandonne. Souvent, va survenir la contradiction, une épreuve. Alors, on va se plaindre de la croix. On va s'irriter, on va se décourager. La première ferveur qu'on peut trouver, par exemple, à la suite d'une retraite ou suite d'une conversion, une difficulté arrive, donc on laisse plus ou moins tomber, et puis on se rend compte finalement ce n'est qu'un feu de paille. Encore une fois, on se plaint, on râle sur la croix. On peut résumer un petit peu cet esprit de nature en un seul mot, égoïsme. C'est vraiment l'égoïsme. Alors après, on va toujours chercher à s'excuser, évidemment, Par exemple, un langage typique de cet esprit de nature, où il faut, vous savez, il faut éviter toute exagération dans l'austérité. Comment, ma chère, votre pénitence de carême, vous privez d'un demi carré de chocolat par jour? Mais ma chère, quelle austérité, vous exagérez, voyons. Ou alors, si vous priez, oh, le chapelet, non, ça c'est déjà une pratique moyenâgeuse qui n'a plus cours au XXIe siècle. Non, voyons, n'exagérons pas. Ou alors, si par, vous commencez à lire, je sais pas, par exemple, un chapitre de l'Évangile par jour, ou si vous lisez un chapitre de l'Imitation de Jésus-Christ, alors ça c'est déjà un excès de mysticisme. Vous êtes vraiment presque prête à rentrer dans un couvent, quoi. Donc voilà, si vous voulez, on exagère, surtout pas trop. Non, il faut suivre la voie commune, c'est-à-dire la médiocrité, la tiédeur, la voie commune de la tiédeur, de la médiocrité. Sorte espèce de milieu instable entre le bien et le mal, mais plutôt plus près du mal que du bien, évidemment. Et évidemment, cette médiocrité, on va la faire passer pour une vertu. C'est-à-dire, on va dire que cette médiocrité, c'est de la modération. C'est le juste milieu de la vertu. Évidemment, on ne va pas dire qu'on est médiocre. Non, on va dire qu'on est modéré. Et ça vous rappelle évidemment cette modération mondaine, si vous voulez. Surtout ne pas trop en faire pour Dieu, quand même. Juste ce qu'il faut, mais pas plus. Donc, si vous voulez, l'égoïste, donc, qui est vraiment se manifeste par cet esprit, juge tout de son point de vue individuel, et non pas du point de vue de Dieu. C'est nous, c'est chacun, soi-même, qui sommes le juge. Donc, on regarde tout par rapport à nous. Est-ce que ça va me faire mal? Est-ce que c'est pour mon bien? Est-ce que je vais y trouver mon plaisir, ma satisfaction? Donc, peu à peu, bien évidemment, disparaît l'esprit de foi, de confiance, d'amour de Dieu, des âmes. Parce que cet esprit s'appuie sur lui-même. Et donc, c'est la faiblesse même. Voilà quelques signes, si vous voulez, de l'esprit de nature. Surtout cet esprit d'égoïsme. Tout centré sur soi-même. Égocentrisme. Quelques signes de l'esprit du démon. Comment agit le démon? Alors, une tactique du démon, en général, c'est qu'il va d'abord nous inspirer, il va nous élever en nous inspirant l'orgueil. Donc, il va nous flatter, il va flatter notre amour propre, pour ensuite nous jeter dans le trouble et le découragement. Ça, c'est tactique du démon. On nous élève, il va nous flatter, il va nous inspirer de l'orgueil, et puis ensuite, on va tomber, il va nous jeter dans le trouble, le découragement, puis voire même le désespoir. Alors, pour être un peu plus concret, par exemple, le démon, à la différence de l'esprit de nature, ne va pas forcément nous détourner ou nous éloigner de la mortification. L'esprit de nature a horreur de la mortification. Tandis que le démon, non. Il va pouvoir nous pousser même vers une certaine mortification extérieure, j'allais dire même exagérée. Pourquoi? Parce que cette mortification extérieure, exagérée, elle est visible. Et donc, elle va être mise en honneur et on va pouvoir tomber ensuite dans une faute d'orgueil. C'était typiquement les pharisiens. Si vous voulez, moi je jeûne, je paye la dîme, etc. Je ne suis pas comme ce publicain, etc. Au fond, ça vous rappelle quelque chose. Oui. Donc là, cette mortification exagérée va entretenir un orgueil spirituel et en plus va ruiner la santé. En plus, on va se ruiner la santé. Donc vous voyez, même le démon ne peut très bien ne pas hésiter à nous susciter des pensées de mortification exagérées. Par exemple, eh bien voilà, moi, ouais, vraiment, tu sors de la retraite, t'es plein de zèle, plein d'entrain, c'est très bien. Que résolution, ben tu vas jeûner 5 fois par semaine, 5 jours par semaine. Ah ben autrement, si tu jeûnes pas 5 jours par semaine, vraiment, tu es tiède. Bon, ben, Je disais, bah oui, c'est vrai. Et puis les abbés nous ont tellement dit qu'il faut être une sainte, des saintes. Donc si je jeûne pas 5 jours par semaine, je suis pas une sainte, quoi. J'ai raté la retraite. Donc, ah bah oui. Bon, je pense que ça n'a pas duré longtemps, mais si vous écoutez un peu trop et si vous ne demandez pas conseil, bah vous allez le faire. Alors après, c'est la volonté. Après, il y a une espèce de, comment, de challenge, comme on dit, vis-à-vis des autres, de ceux qui vous entourent. Ah ouais, t'as pris toujours 5 jours par semaine. Dis donc, t'es vraiment une sainte, dis donc. Alors, bravo, hein. Alors du coup, comment on va vous flatter? Bah, il faut que je tienne. Alors, maintenant, je peux pas faire autrement. Alors, je tiens, et puis au bout d'un mois, un spectre. Et puis ensuite, c'est l'anorexie, puis c'est l'hôpital, et puis voilà. Bon. Donc attention, vous voyez comme quoi le démon peut nous faire tomber dans l'illusion. Alors entre parenthèses, c'est vraiment juste une parenthèse parce que c'est souvent une des remarques qu'on entend, les fameuses apparitions dites de la Sainte Vierge à Medjugorje. J'ai entendu certaines fois, mais comment c'est forcément la Sainte Vierge? Elle demande de jeûner 2 fois par semaine. Là c'est pas 5, c'est 2 jours par semaine. Bah, ça peut pas être le démon qui apparaît, c'est pas possible. C'est forcément la Sainte Vierge qui demande de jeûner et de prier. Voyons, comment vous pouvez imaginer un seul instant que c'est pas la Sainte Vierge? Ben, ils connaissent pas leur théologie. Le démon, ça le gêne pas, hein, dans une apparition, de faire dire, ben voilà, vous jeûnez 2 fois par semaine. Ça le gêne, mais absolument pas, ça. Ça le dérange pas. Si par ailleurs, il fait passer des messages qui sont faux, une vierge œcuméniste, par exemple, comme elle est à Medjugorje, toutes les religions se valent, tout le monde il est beau, etc. Bah, et dans ce cas-là, il gagne. Il donne une impression que c'est la Sainte Vierge, parce qu'il faut jeûner, il faut prier. Et puis, de l'autre côté, il vous donne des messages qui ne sont pas catholiques. Et les gens vont gober ces messages qui ne sont pas catholiques parce qu'il faut jeûner. C'est vraiment la tentation sous apparence de bien. C'est typique. Donc, vous voyez, comme quoi l'esprit du démon peut très bien ne nous éloigne pas de la pénitence, de la mortification. Ouf, vous me rassurez, donc je ne ferai jamais plus pénitence. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais savoir, c'est pour ça, entre parenthèses, aussi, bah, on demande, dans les règles, dans la vie spirituelle, bah, de savoir demander conseil à un prêtre, quelqu'un qui est extérieur et qui va pouvoir juger si une pénitence extraordinaire et vient de Dieu ou pas, si une idée, une intention que vous avez de faire une pénitence un peu extraordinaire, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Mais c'est pour ça qu'il faut demander conseil. Mais par contre, le démon ne va pas pousser à la mortification intérieure, c'est-à-dire la mortification de l'imagination, la mortification du cœur, de la volonté propre, du jugement propre. Alors ça, non, le démon, non, surtout pas. Et au contraire, il va le développer. Alors, de temps en temps, il peut même nous simuler, des scrupules sur des riens. Et au contraire, sur une grande largeur de vue sur d'autres choses dangereuses. Exemple. Mon père, je crois, écoutez, monsieur l'abbé, il me semble que j'ai commis un sacrilège. En faisant le signe de croix, quand j'ai dit au nom du père, je n'ai pas mis la main sur le front, mais sur le nez. Donc, c'est un sacré, c'est un manque de respect, moi. Non, vous croyez pas? Bon. Oui, puis encore. Oui, alors j'ai pas su que répondre à mon fils, parce que on a un problème aussi. Dans le champ du voisin, il y a une rave party qui se fait. Alors mon fils m'a demandé s'il pouvait y aller. Bon, je lui dis, bah oui, il n'y a pas de problème. Seulement, tu dis ton Angélus avant, mais tu peux y aller. Ça aussi, ça c'est typique. Vous voyez, vraiment, sur un rien, un scrupule. Vraiment. Puis à l'autre, très laxiste, bah oui, une rave party, on s'amuse, quand on s'éclate, il n'y a pas de problème. Oui, bon, une rave party, enfin, je pense que vous savez ce que c'est quand même. Oui, non, c'est... Pardon, madame. Try to rave, en anglais, c'est quelque chose comme s'éclater. C'est-à-dire, on danse, on a de la musique, et puis on a de la drogue, enfin tout, quoi. C'est vraiment affreux, quoi. C'est abominable, c'est vraiment diabolique. Bref, enfin, c'est soi-disant à la mode aujourd'hui. Bref, donc voilà. Donc vous voyez comment peut avancer le démon. Et souvent, évidemment, un des signes aussi, c'est qu'il nous donne une grande estime de nous-mêmes. Ça, c'est sûr. Donc On est toujours les meilleurs, on se vante, il nous pousse à nous vanter, etc. Et inconsciemment, à faire cette prière du pharisien, hein, que nous avons entendue dans l'évangile dimanche, pharisien. Seigneur, merci de ne pas être comme ce publicain qui est voleur, adultère, etc. Moi, je respecte la loi, je paye la dîme, etc., etc. Alors vous transformez. Merci Seigneur de ne pas être comme les progressistes, d'être nul comme eux, etc. Merci de m'avoir fait tradit, je suis vraiment une petite sainte. Je prie, je vais à la messe tous les dimanches, à la messe Saint-Pie-V tous les dimanches, etc. Là, il peut nous flatter comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, non, c'est sûr. Mais inconsciemment, il va nous faire mépriser les autres parce que on ne les estime pas dignes de nous. Alors évidemment, cet orgueil un peu spirituel peut s'accompagner d'une fausse humilité. Fausse humilité, on va se considérer comme le plus grand des pécheurs. Ah, c'est affreux, comme j'ai des distractions dans la prière, je suis vraiment une grande pécheresse. Et puis en même temps, on va pas supporter que les autres nous disent ce que nous sommes. Ah, tu es médisante, t'arrêtes pas de dire du mal des autres. C'est pas vrai. Donc on va pas supporter. Alors pour des petites choses minimes, on se considère évidemment le plus grand pécheur. Et puis pour d'autres, non, surtout pas. Donc cet esprit du démon aussi peut nous attirer vers ce qui est de plus extraordinaire, de merveilleux, de ce qui peut nous mettre en valeur, plutôt que ce qui concerne notre devoir d'État. Par exemple, il peut inspirer... Par exemple, c'est typique, le curé d'Ars s'est fait avoir. Il s'est fait avoir par l'esprit du démon. Ah, mon pauvre, quelle vie de misérable, vie de pauvre pécheur, il faut que tu ailles pleurer ta pauvre vie dans une chartreuse. Mais il l'a cru. Il est parti, il a fui le curé d'Ars, il a fui la nuit. Bon, on l'a rattrapé, mais il a écouté le démon, il s'est fait avoir. Alors si le saint curé d'Ars peut se faire avoir, je crois qu'on peut tous se faire avoir. Par exemple, tentation pour une mère de famille, avec tous ses enfants, j'arrive pas à prier, ils sont insupportables. Bon, je crois que j'ai une vocation de carmélite. Bon, je crois que je vais rentrer au Carmel. Allez, mes enfants, au revoir, je rentre au Carmel. Bon, avant, réfléchissez, demandez conseil quand même. Donc, vous voyez, si vous voulez, il nous déstabilise. Donc, toujours, il y a toujours l'orgueil, si vous voulez, ou la présomption. On croit être plus saint que les autres, sans passer par les degrés indispensables. On voudrait être tout de suite au sommet. Sans passer marche par marche, si vous voulez. Oui, la sainteté, ça se fait progressivement. Il faut combattre. Donc, il va même, de temps en temps, nous inspirer une certaine impatience contre nous-mêmes. Ah, je suis nul, etc. J'arrive à rien. Et puis, ça sera pas de la contrition, ça sera plutôt du dépit. Donc, voyez toujours quelques signes. Attention, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est mu par l'Esprit de Dieu, on peut avoir quand même quelques signes de l'Esprit de nature ou quelques signes de l'Esprit du démon, mais c'est pas pour ça qu'on est guidé en tout par le démon. Donc souvent, il cultive en nous donc toujours cet amour propre. Et là aussi, de temps en temps, ça peut se trouver de nos jours, où il peut nous faire dévier la charité, par exemple, vers un libéralisme qui se prend pour de la générosité. Il faut être bon avec tout le monde, l'œcuménisme, il faut accueillir tout le monde, nos frères séparés, il faut prier avec eux, etc. Ou alors, ça va être le contraire, il va conduire vers un zèle amer, qui va corriger les autres à tort et à travers, quoi. Toujours très dur, il n'y a que nous qui avons raison, surtout, etc. Nous sommes les meilleurs, les autres sont des mécréants, etc. Donc on ne voit que la paille dans l'œil du prochain et non pas la poutre qui est dans le nôtre. Et tout ça, évidemment, ça engendre la haine, la division, etc. Et puis dès qu'il survient une faute qui est évidente, qu'on ne peut pas cacher, eh bien tout de suite, c'est le découragement. C'est le découragement, le trouble, le dépit. Donc là, ensuite, le démon nous enfonce un peu plus. Il nous voilait d'abord un petit peu nos défauts, puis une fois qu'on est tombé dedans, alors là, il nous enfonce, hein, pour nous mener au découragement. Découragement, voire désespoir, évidemment, pour tout nous faire lâcher, tout nous faire tomber, tomber dans le désespoir. Ainsi, je crois, en tout cas, un manque d'humilité et d'obéissance, hein, c'est un indice certain que ce n'est pas Dieu qui nous guide. Ça, c'est sûr. Un manque certain d'humilité et d'obéissance, celui qui n'obéit pas à ses supérieurs, eh bien, c'est certain, c'est un signe que Dieu ne nous guide pas. Humilité, obéissance. Ça, c'est terrible, ça peut guetter même des prêtres. Voilà les signes qu'on peut trouver l'esprit du démon. Alors maintenant, quelques signes de l'esprit de Dieu. C'est facile, c'est le contraire. C'est le contraire de ce que je viens de vous dire. Donc, l'esprit de Dieu va nous pousser à la mortification, c'est vrai, mortification extérieure, mais réglée par la discrétion et l'obéissance, qui va pas nous faire nous remarquer, et qui va pas ruiner notre santé. Et puis de même, l'esprit de Dieu va nous dire que cette mortification extérieure n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord la mortification intérieure, mortification du cœur, de la volonté, du jugement propre, etc. Il va nous inspirer une véritable humilité qui ne craint pas le mépris, qui ne nie pas non plus les faveurs divines. On peut recevoir des faveurs divines, on ne le nie pas, mais on renvoie tout à Dieu, comme la Sainte Vierge dans son Magnificat. Et puis cet Esprit de Dieu va nous porter à nourrir notre foi, hein, par l'Évangile, la lecture de l'Évangile. Il va nous porter à voir notre Seigneur dans nos supérieurs, malgré leurs défauts. Donc on va développer notre esprit de foi, et non pas notre esprit d'indépendance. L'Esprit de Dieu avive l'espérance aussi, et préserve de la présomption. Donc vous voyez, vraiment l'inverse de l'esprit du démon. Il va nous pousser dans la voie de l'humilité, du renoncement, la voie de la croix. Il va même nous donner une sainte indifférence à l'égard du succès humain. C'est normal, on a toujours quelques succès, mais on va être complètement indifférent. Et puis, évidemment, il va augmenter notre charité, notre zèle pour la gloire de Dieu, l'oubli de soi, etc. Donc, la patience, l'amour de Dieu. Et si on fait une chute accidentelle, eh bien, l'Esprit de Dieu va nous parler plutôt de la miséricorde de Dieu. Oui, on a fait une bêtise, on va se plier, on va demander pardon, bon Dieu. Voilà un petit peu quelques signes de ces différents esprits. Maintenant, un petit peu rapidement, donc quelques règles pratiques du discernement. Alors, une règle typique, donc là, c'est vrai que Saint Ignace en a fait de très bonnes règles du discernement des esprits que certaines d'entre vous connaissent peut-être, ayant fait les exercices. Donc, quand les gens vont de péché mortel en péché mortel, que fait le démon ? Eh bien, le démon nous rassure. Il nous rassure, il nous dit, non, c'est pas si grave que ça, etc. Puis il faut faire comme tout le monde le fait, donc pourquoi toi tu t'en priverais? Il y a que les imbéciles qui se privent, etc. Dans tout ce qu'on entend, quoi. Eh bien, regarde autour de toi, etc. Il y a que les imbéciles qui se gênent, etc., etc. Alors le démon rassure. Et on va de péché mortel en péché mortel. Le bon ange, lui, l'esprit de Dieu, fait l'inverse. Il va stimuler notre conscience. Ah, qu'est-ce que tu fais là? C'est quand même pas bien. Allez, va te confesser, reprends tes résolutions, n'écoute pas, allez. Alors qu'on est inquiet. Parce que là, du coup, c'est le bon ange qui nous titille, qui nous dit, allez, va te confesser. Donc ça, c'est celui qui va de péché mortel en péché mortel. Bon, ici, plutôt votre cas, c'est plutôt l'inverse. Vous essayez de progresser. Donc vous êtes dans une retraite. Donc ça va être l'inverse. Le bon ange, le bon esprit, l'esprit de Dieu va vous rassurer dans vos efforts. Et le démon, au contraire, va vous mettre des pots de banane sous les pieds. C'est-à-dire, il va vous inquiéter. Alors, quels sont les signes, justement, qui va donner? Quels sont les signes qui peuvent nous dire, attention, c'est le mauvais esprit qui est là? Quand on essaie de faire le bien, qu'on essaie de progresser dans la vie spirituelle. La tristesse, un saint triste, c'est un triste saint, disait saint François de Sales. Le démon, c'est l'éternellement triste. Donc dès qu'il s'approche de nous, il va nous communiquer sa tristesse. Donc le fait, ben, j'ai pas le moral, qu'est-ce qui arrive? Et puis attention, rêverie mélancolique, etc. Ici, ici, etc. Non, ça, c'est un signe, c'est pas l'esprit de Dieu. Tourment de conscience aussi, des scrupules, j'en ai parlé déjà. Ça aussi, il peut nous susciter des... Ah, écoute, est-ce que tu t'es bien confessé? T'es sûr? Le sacristain faisait du bruit, les enfants, ils chahutaient, le prêtre, il a éternué, moi, je me suis embrouillé, alors est-ce qu'il a bien compris ce que je disais, etc., etc. Un tourment de conscience, ça, c'est pas de Dieu non plus. Alors que vous avez fait une bonne confession, vous n'avez rien voulu cacher, vous avez dit tout ce qu'il fallait dire. Non, donc ça c'est le démon qui nous trouble. Des obstacles aussi, il suscite des obstacles. On prend une topinière pour une montagne. Donc il croit que la vie chrétienne c'est impossible, c'est des choses insurmontables, etc. On ne peut pas vivre chrétiennement dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas possible. On ne peut pas vivre chastement aujourd'hui, c'est pas possible, etc. Voilà, donc il nous fait prendre une topinière pour une montagne. Quoi. Il nous montre que des obstacles. Des raisonnements faux aussi, style mon fils, il choisira sa religion quand il sera grand. Bon, des choses comme ça, donc des raisonnements faux, là aussi, c'est typique du démon. Et puis évidemment, j'en ai parlé rapidement, le découragement. Découragement. Alors, il nous pousse dans le découragement. Ça, c'est pas de Dieu. Si vous êtes découragé, si rien ne va plus, bon, faites un point, un examen de conscience, voyez ce qui va, mais dites-vous, le découragement, c'est pas de Dieu. On peut avoir une croix, une peine, une souffrance, oui. Mais le découragement qui nous pousse à tout laisser tomber, ça, c'est pas de Dieu. C'est ça, c'est le démon qui sait utiliser cette arme. Ensuite, ne pas confondre aussi la consolation avec progrès dans la sainteté, et puis désolation avec recul. C'est-à-dire que on est bien, consolation, on a quelques joies de prier, de suivre la retraite, donc je suis forcément une sainte. C'est normal. Et puis ensuite, rien ne va plus. J'ai du mal à prier, j'ai des distractions, la tête de Stabé ne me revient pas, etc. Donc, c'est fini. C'est fini, donc ça sert à rien. On m'a encore roulé dans la farine pendant la retraite, donc j'arrête. Non, ne pas tomber dans ce piège. Alors rapidement la règle, vous savez, quand on est dans la désolation, eh bien on ne change pas. On garde les résolutions qu'on avait prises et on ne les change pas. On va demander conseil, on prie un peu plus, mais surtout on ne change pas nos résolutions. Autrement, évidemment, on est sûr de se faire avoir. Voilà, donc je suis désolé parce que le temps tourne. On change pas de cap, donc dans la désolation, et on demande conseil. Bon, je parle pas de la tentation. Dans la vie spirituelle, savoir que la tentation n'est pas un péché. Vous le savez, mais c'est bon de temps en temps de se le dire. C'est pas parce qu'on est tenté qu'on a péché forcément. Et puis pour terminer, juste donc cette petite instruction, en conclusion, et vous pourrez le lire par vous-même, je vous l'indiquerai, parce que là je vais juste lire peut-être quelques phrases. Vous avez un merveilleux chapitre dans l'imitation de Jésus-Christ, au livre 3e, chapitre 54e, 54, des divers mouvements de la nature et de la grâce, qui montre bien justement ce qu'on disait, l'esprit de nature... La grâce, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, hein, les différents mouvements entre les deux. Par exemple, la nature est pleine d'artifices, elle attire, elle surprend, elle séduit et n'a jamais d'autre fin qu'elle-même. La grâce, au contraire, agit avec simplicité et fuit jusqu'à la moindre apparence du mal. Elle ne tend point de piège et fait tout pour Dieu seul en qui elle se repose comme en sa fin. La nature travaille pour son intérêt propre et calcule le bien qu'elle peut retirer des autres. La grâce ne considère point ce qui lui est avantageux, mais ce qui peut être utile à plusieurs. La nature recherche les choses curieuses et belles, et repousse avec horreur ce qui est vil et grossier. La grâce se complaît dans les choses simples et humbles, elle ne dédaigne point ce qu'il y a de plus rude, et ne refuse point de se vêtir de haillons. Oh, c'est encore un homme qui a écrit ça. La nature se porte vers les créatures, la chair, les vanités, elle est bien aise de se produire. La grâce élève à Dieu, excite la vertu, renonce aux créatures, fuit le monde. Elle, les désirs de la chair, ne se répand point au dehors et rougit de paraître devant les hommes, etc. La nature est curieuse de secrets, de nouvelles, etc. Elle veut se montrer et voir, examiner par elle-même. Elle désire être connue, s'attirer la louange et l'admiration. La grâce ne se coupe point de nouvelles ni de ce qui nourrit la curiosité, car tout cela n'est que la renaissance d'une vieille corruption. Et voilà la conclusion. Plus donc la nature est affaiblie et vaincue, plus la grâce se répand avec abondance. Et chaque jour, par de nouvelles effusions, elle rétablit au-dedans de l'homme l'image de Dieu. Donc voilà la grâce qu'il nous faut demander. C'est de suivre toujours cette grâce, c'est-à-dire d'être toujours mû par l'Esprit de Dieu et savoir combattre eh bien, cet esprit de nature et cet esprit du démon. Alors avec la grâce de Dieu, évidemment, qui est toute puissante, nous pouvons le faire. Voilà, donc nous nous rendons maintenant à la chapelle pour chanter Compli. Cette instruction dite de conclusion, donc, vous voyez le thème de cette conférence est très précis, c'est conclusion. Alors de quoi parler quand on vous dit, ben, vous ferez la conclusion. Alors en conclusion de cette retraite, il est peut-être déjà bon de revoir rapidement le plan qu'on a adopté dans cette retraite. Déjà j'entends, ah bon, il y avait un plan. Donc quand même, si vous vous rappelez, dimanche matin, nous sommes partis de Dieu. Nous avons médité sur Dieu, nous avons vu ses perfections, ce qu'il était, ce que nous pouvions en dire. Et ensuite, après, dans les conférences suivantes, a été vu l'obstacle au plan de Dieu, qui était le péché. Le péché et ses conséquences. Et ensuite, a été abordé le retour à Dieu. Le retour à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par les sacrements, par la prière. On part de Dieu, le plan de Dieu est perturbé par le péché. Comment revenir à Dieu? Par notre Seigneur. Et donc l'institution de l'Église, les sacrements, la prière. Donc en conséquence de tout cela, en principe, vous avez pris des résolutions. Tout simplement pour correspondre au plan de Dieu sur vous. Donc on a pris ces résolutions, dans quel but? Eh bien évidemment, enlever d'abord les obstacles. Quels sont les obstacles qui m'empêchaient d'aller à Dieu? Enlever les obstacles à l'habitation de Dieu en nous. Corriger les défauts, etc. Donc ces résolutions, en principe, ont été prises dans ce but-là. Et donc maintenant, après avoir fait tout cela, eh bien vous êtes pleine de zèle, évidemment, pour votre sanctification. Je l'ose espérer, en tout cas. Et puis évidemment, non seulement pour votre sanctification, mais pour la sanctification de vos proches. Comment sanctifier vos proches? Sans doute, j'allais dire, pas par des discours. Ne commencez pas dès que vous arrivez en disant bonjour à votre famille. Ben voilà, tiens, j'ai pris un tract, c'est bon, je t'ai inscrit pour la prochaine retraite. Bon, il faudrait être peut-être un peu plus délicate avant. Mais comment sanctifier vos proches? Eh bien, surtout par l'exemple de vos vertus. C'est-à-dire, en principe, ils devraient voir une différence entre samedi dernier et vendredi et demain. Bon, vous allez me dire, mais c'est pas toujours visible. Oui, mais en tout cas, au moins pendant quelques jours, c'est-à-dire le jour où vous allez tenir vos résolutions, qu'ils voient quelques différences, au moins quelques essais, quelques tentatives. Je suis encourageant. Alors, pour essayer de vous stimuler quand même un peu plus, davantage, à votre sanctification, je pense qu'il est important de dire un petit mot de la communion des saints. Pensons à la communion des saints. La communion des saints, on le connaît dans le credo. Je crois à la communion des saints, à la résurrection de la chair, etc. Bon, est-ce qu'on en vit? Est-ce que c'est quelque chose dont on a l'habitude, sur lequel on a l'habitude de réfléchir? Je ne suis pas sûr. Communion des saints, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la communication des biens spirituels entre les membres de l'Église. Donc, il y a toute cette communication de tous ces biens entre les membres de l'Église. Les membres de l'Église, évidemment, sont ceux qui sont unis entre eux sous le même chef, Jésus-Christ. Les membres de l'Église, vous savez qu'il y en a trois catégories. L'Église qu'on dit triomphante, souffrante et militante. Triomphante, c'est ceux qui sont arrivés au but. Ceux qui triomphent, ceux qui sont dans la joie, ce sont les saints du ciel, tous ceux qui sont au ciel. L'Église souffrante, comme le mot l'indique, c'est le purgatoire. Donc ils sont membres de l'Église, mais ils souffrent. Et l'Église militante, milites, le soldat, ceux qui combattent, c'est nous. C'est nous sur cette terre. Mais nous formons une seule Église. Donc si vous voulez, les membres de l'Église, donc ces trois catégories, nous sommes unis entre nous. C'est-à-dire comme les enfants d'une même famille. Et comme les membres d'un même corps. C'est ce qu'on appelle le corps mystique de Jésus-Christ. Le corps mystique, notre Seigneur est la tête, nous sommes les membres. Donc si vous gardez bien cette image du corps, eh bien comme dans tout corps organisé, ou un corps d'une société par exemple, pareil, les opérations d'un membre vont tendre au bien des autres membres. En effet, notre corps, eh bien tout, je veux dire, cherche notre bien. Par exemple, la partie la plus noble de notre corps, c'est la tête. Et vous voyez qu'il y a vraiment des réflexes de survie. Quand on vous attaque, ou n'importe quoi, ou vous tombez, par exemple, premier réflexe, on se protège la tête. Tout est fait pour se protéger la tête. On réfléchit même pas, c'est un réflexe. On cherche, on se protège. Donc, vous voyez, tous les membres, eh bien, coopèrent au bien de l'ensemble des autres membres. Comme dans une famille, eh bien, tout coopère, tout profite à tous et à chacun. Ainsi, eh bien, tous les biens de l'Église, tous les biens spirituels de l'Église, c'est-à-dire constitués par les mérites de Jésus-Christ, les mérites de la très sainte Vierge, les mérites des saints, les prières et les bonnes œuvres des fidèles, etc. Eh bien, nous en profitons. Nous profitons de tous ces biens de l'Église. Et donc, les grâces que chacun reçoit et les œuvres, les bonnes œuvres qu'il opère vont profiter à tous. Ce qui veut dire que, eh bien, tout ce que nous recevons, nous, comme grâce, et toutes les bonnes œuvres que nous allons faire, vont profiter non seulement à nous-mêmes, mais à tous les membres de l'Église. Et donc, ce qui montre que, d'un côté, plus on va donner, plus on va recevoir. En même temps, plus on acquiert des mérites pour soi-même, plus on va participer aux mérites des autres. Donc, vous voyez, c'est cette communication de tous les biens entre les membres de l'Église qui est très important. Ainsi, ce qu'il faut dire, eh bien, tous vos efforts, tout ce que vous allez faire après, en essayant de garder vos résolutions, de les mettre en pratique, eh bien, vont participer à la sanctification de votre famille, de vos amis. Eh oui. Et ça, c'est très important. Donc, on ne marche pas uniquement en solo. Tout ce qu'on fait, effectivement, de bien, va profiter aussi aux autres membres de notre famille. Donc, je crois que ça doit nous stimuler un petit peu pour notre sanctification. Sanctification personnelle, sanctification ensuite de ceux qui sont autour de nous. Alors, je crois, pensez-y. Pensez un peu à cette communion des saints. Dans les moments un peu difficiles, dans les moments où vous commencerez déjà à vouloir lâcher vos résolutions, eh bien, dites-vous, non, je tiens, parce que aussi, il y va de la sanctification des membres de ma famille, de mes amis. Pensez aussi, donc, à ceux qui n'ont pas encore, donc, reçu la grâce de la foi. Donc, on pense à ceux qui ne sont pas dans l'Église. Donc, les missions. Missions. Alors, si vous voulez, là, je vais faire, ça va peut-être, un petit aperçu des missions que nous avons dans la fraternité Saint-Pie-X, pour essayer d'illustrer un petit peu. En effet, donc ça veut faire maintenant 3 ans, donc je suis amené, de par mes fonctions, à voir, visiter mes confrères qui sont un peu dans le monde entier. Donc ce qui fait qu'on voit beaucoup de choses. Et ça permet ensuite de peut-être de sortir un petit peu du contexte qu'on connaît un peu trop. Et on se rend compte que finalement, en France, on est quand même bien servi. Même si peut-être certains d'entre vous vous trouvez un peu loin d'un prieuré ou vous n'avez qu'une messe le dimanche. Mais quand on voit un peu ce qui se passe dans les autres pays, on est quand même gâté. Alors, il y a des pays qui sont encore très catholiques. Je pense à l'Argentine, au Mexique. Où, bon, on en parlait du Mexique là, dans une conférence. Effectivement, le prêtre, là-bas, quand vous êtes prêtre, toujours très bien considéré. Donc, c'est vrai, on voit encore un fond catholique qui reste. Mais aussi, on voit une très grande pauvreté temporelle dans les gens, dans les personnes. Alors, comme il y a quand même dans ces pays, malheureusement, cette crise qui déchire un peu l'Église, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que ben, ce sont les sectes qui arrivent, hein, même dans ces pays. Et on voit que les sectes gagnent, parce que les sectes viennent avec de l'argent. Et ils construisent des temples, ils donnent de l'argent aux fidèles. Donc les gens sont pauvres. Malheureusement, la crise de l'Église fait que eh bien, les prêtres font peut-être plus tout à fait leur travail et ils se détachent de l'Église, donc ils vont dans ces sectes. Et ça, c'est dramatique. Effectivement, beaucoup où l'argent vient. Alors, comme on a entendu le conférencier, visiblement, il portait pas les États-Unis dans son cœur. Ben, il faut reconnaître qu'effectivement, l'argent vient des États-Unis. Ça, c'est sûr. Et toutes ces sectes, multiples et variées, protestants, témoins de Jéhovah, les adventistes du septième jour, et puis tous les trucs invraisemblables, ben, ça vient des États-Unis, quoi. Et là, c'est le malheur que l'on voit, c'est que ces sectes gagnent. C'est sûr. Le Mexique, donc vraiment pays catholique, c'est vrai qu'ils ont grand respect du prêtre. Bon, maintenant la soutane est permise. Ils disaient que la soutane n'était pas permise, mais maintenant, je crois, depuis 93, c'est permis. Donc, quand j'y suis allé, là, relativement récemment, j'étais en soutane, donc on ne s'est pas fait jeter en dehors du Mexique. Mais c'est vrai que au début des années 90, un confrère, effectivement, qui allait au Mexique en poste là-bas, ils étaient obligés d'y aller en civil. Ils n'avaient pas le droit de... Ils mettaient la soutane à l'intérieur de la maison, mais ils n'avaient pas le droit d'être en soutane à l'extérieur. Et vous avez encore, ça va vous surprendre peut-être, il existe encore au moins dans le monde un État où la soutane est officiellement interdite. Cet État, ça s'appelle le canton de Vaud en Suisse. Eh oui, le canton de Vaud en Suisse, bon, canton protestant, très protestant, en soi, en théorie, on n'a pas le droit de se promener en soutane. La soutane est interdite. Bon, quand on change de train dans la gare de Lausanne, ça passe. Hein. Enfin, je ne me suis jamais fait arrêter encore. Mais le chanoine Berthaud, donc l'ancien directeur des cônes, bon, qui est décédé maintenant, lui avait eu à un moment des ennuis parce qu'il était donc dans le canton de Vaud et... Alors, il avait trouvé un truc, c'est que, en réalité, comme soutane, il avait mis un manteau noir. Et puis, je pense, peut-être un clergyman en dessous, je ne sais pas quoi, mais ça donnait l'impression d'être en soutane. Et un jour, il s'est fait arrêter par la police en disant, mais vous savez, vous n'avez pas le droit d'être en soutane. Il a dit, mais moi, je ne suis pas en soutane. Et puis, il a ouvert son manteau. Non, moi, j'ai un manteau. Je ne sais pas. Donc, il a rusé de cette façon-là. Mais officiellement, c'est encore interdit en Suisse, enfin au moins dans le canton de Vaud. Enfin, non, que le canton de Vaud, pas dans le reste de la Suisse. Bref, donc au Mexique, on peut y aller en soutane, il n'y a pas de problème. Ensuite, un autre pays, on voit des grandes processions qui font pour les jours saints, par exemple, des confréries, beaucoup de confréries, des statues, des lourdes statues, des brancards immenses qui partent dans la ville, vraiment... Entre autres, la Semaine Sainte, c'est le Guatemala. Là aussi, le Guatemala, il reste encore un aspect très, très catholique. Et c'est vrai, c'est surprenant au Mexique de voir tous ces gens fidèles. Vous allez à Notre-Dame de Guadalupe, c'est vrai, c'est un peu dans leur tempérament aussi. Ils ont certainement une manifestation extérieure plus, plus, comment dirais-je, exubérante, si je puis dire, qu'ici en Europe. Mais c'est très frappant que vous allez là-bas, tout de suite, on vous demande de bénir les objets, on vous demande, mais padre, vous pouvez confesser, etc. Donc tout de suite, quoi, dès qu'on se promène, on est presque assailli, si vous voulez. Donc là, ils sont encore vraiment très, très fervents. Alors qu'effectivement, le gouvernement, bon, ils ont un autre gouvernement, mais libéral, et les Mexicains nous disaient, ça n'a pas changé grand-chose, quoi, c'est toujours aussi corrompu. En Afrique, bon, il y a la grande mission du Gabon, je ne connais pas encore, mais là, je crois que nos confrères bénéficient vraiment du travail dans le temps de Mgr Lefebvre, puisqu'ils ont plus de 1000 fidèles quand même le dimanche à la messe. Je crois qu'ils ont 700 catéchistes, enfants au catéchisme, etc. Donc, c'est vraiment une grande mission. Nous avons maintenant donc des confrères au Kenya aussi. Alors, Kenya, c'est vrai, quand vous arrivez là-bas, c'est la pauvreté aussi, c'est assez pauvre. Problème aussi, ils ont le problème des sectes, pareil. Donc nos confrères aussi donnent un catéchisme dans un bidonville. Et c'est très instructif, quoi, vraiment, dans le bidonville. On a loué une maison, elle fait... Si ça fait 10 mètres carrés, c'est bien tout. Donc on entasse dedans les enfants. C'est le toit, c'est de la tôle, évidemment. Donc 4 murs et puis de la tôle. Les gens travaillent dans la rue. Enfin, c'est vraiment très, très misérable, quoi. Et ce qui est triste quand on voit ça, c'est les enfants qui sont laissés à eux-mêmes, quoi, laissés à eux-mêmes dans la rue. Alors l'abbé, ben, on essaye comme ça de les attirer, catéchisme. Ensuite, on fait une partie de foot, évidemment. Donc ça les attire. Puis ils viennent, petit à petit, ça grossit. Là-bas aussi, ce qui est terrible, quand on parle du sida, etc. Bon, peut-être ici en Europe, on se dit, ben, c'est encore peut-être des milieux plus ou moins obscurs. Mais là-bas, malheureusement, c'est quasiment commun, parce que ce sont des innocents qui attrapent cette maladie. Et je vois même parmi nos fidèles, quoi, il y a des enfants, au moins dans une famille, il y a une femme, bon, son mari est mort du sida. Sa fille aînée, je crois, n'a pas eu le sida, mais son deuxième fils, qui est plus petit, a le sida. Donc vous voyez, tout ça, des intentions de prière. Pour une autre partie aussi de mission que nous avons, c'est l'Asie. L'Asie, alors les Philippines... C'est un pays encore très catholique. Enfin, on voit, il y a un fond encore très catholique. D'ailleurs, ça m'a surpris. Quand vous arrivez là-bas, à l'aéroport, avant de passer la douane, donc c'était en octobre, il y avait toute une crèche. Une crèche, mais des santons grandeur nature, quoi. Donc vous avez Saint-Joseph, la Sainte Vierge, il y avait déjà l'enfant Jésus. Donc vraiment, vous avez une crèche, quoi. Déjà, vous avez un peu plus loin un grand panneau, un Sacré-Cœur, etc. On sait où on met les pieds, quoi. On dit, bah, au moins, ils sont catholiques. Et puis, en traversant la ville pour aller à notre prieuré, on voit effectivement, donc c'était en octobre, on voyait, mais plein de décorations de Noël, quoi, partout, quoi. Celles qu'on trouve en Europe. Et je leur demandais, mais quand même, on est au mois d'octobre, ils vous préparaient déjà Noël? Ah oui, mais Father, vous savez, on fait ça déjà depuis le mois, on commence en septembre. Donc, dès le mois de septembre, ils commencent à préparer Noël. Alors, effectivement, on voit déjà plein de décorations de Noël, donc bon, c'est curieux. Et on voit donc des Sacré-Cœurs, des Saintes Vierges, beaucoup sur les maisons. Donc, on voit vraiment un pays qui est resté encore très catholique. Mais là aussi, problème, c'est toujours pareil, les sectes, c'est la crise dans l'Église. Donc, malheureusement, l'Église perd de l'influence, donc ce sont les sectes qui en gagnent. Ça, c'est vraiment catastrophique. Mais si vous voulez, on voit encore, et puis surtout le sud des Philippines, donc vous savez, Philippines, c'est vraiment un archipel d'îles, quoi. Il y a plusieurs îles, etc. Donc dans le sud, donc là, ça devient musulman par contre. C'est les musulmans qui prennent le dessus, quoi. Et vraiment terroriste, ce qui fait qu'on a une chapelle au sud. Donc nos confrères de Iloilo, donc c'est au milieu de l'archipel, ils vont donc là-bas, et le confrère me disait, maintenant je suis obligé d'y aller en civil. Il va en civil là-bas, parce qu'autrement, si je vais en soutane, je vais me faire kidnapper et prendre par les musulmans. Donc, ça devient dangereux, quoi. Ensuite, bon, Singapour, alors, ça n'a rien à voir. Alors, ça, c'est un autre monde. C'est le monde de l'argent. C'est le monde du luxe, tout ce que vous voulez. Et de là, de Singapour, on est parti en Inde. C'est le changement de paysage total. Nous sommes plutôt donc sud de l'Inde. Et c'est vraiment un pays très pauvre. Vraiment, je crois, c'est celui, pour l'instant, que j'ai vu, c'est le plus pauvre. Pauvre, sale, vraiment sale, beaucoup de monde, donc c'est hyper peuplé, donc je crois qu'ils sont plus d'un milliard de toute façon dans l'ensemble de l'Inde, donc ça se voit. Et puis très très bruyant, du bruit mais sans arrêt. Donc quand vous passez dans des villages, vraiment des petits villages, vous avez d'énormes enceintes de haut-parleurs avec de la musique à fond, quoi, si vous voulez. Vous avez l'impression de vous trouver dans des supermarchés en Europe, quoi. Mais ça se diffuse dans la rue, quoi, si vous voulez. Donc la musique indienne, un peu rythmée, donc ils se diffusent partout, du bruit, ils vivent dans le bruit, si vous voulez. C'est vraiment curieux. Puis surtout, la grande impression que ça vous fait quand vous arrivez là-bas, c'est un pays païen. Païen. Alors ça, bon, on connaît l'histoire, quand vous lisez la Bible, on voit Dieu qui condamne les idoles, donc on voit cette lutte d'Israël pour rester fidèle au vrai Dieu, mais ils ont toujours la tentation de tomber dans les idoles parce que les peuples d'à côté étaient dans le paganisme. On pense à Rome, à la Grèce, etc. Eh bien, allez là-bas, vous en verrez des idoles. Là-bas, il y a plein d'idoles, quoi. C'est vraiment surprenant pour nous, quoi. Et des idoles de tout genre. Donc, vous avez des stèles sous les arbres, parce qu'on adore l'arbre. Vous avez ça. Et oui. Alors, vous avez des stèles, ils apportent de la nourriture. Enfin, vous avez ensuite, évidemment, toutes les statues possibles et inimaginables. Alors, à un moment aussi, on passait en voiture, et puis tout d'un coup, on entend mais, des pétards, sans arrêt, des pétards. Enfin, oui, des pétards. Moi, je demande aux confrères, bah, qu'est-ce qu'il y a? Ils font la fête? C'est une fête aujourd'hui ou quoi? Il dit, ben non, parce que là, on passe devant le temple de je sais plus quoi. Et un des principes de cette religion, c'est de chasser les mauvais esprits par des pétards. Alors, toute la journée, ils font claquer des pétards. C'est pour chasser les mauvais esprits. Bon, alors il faut mieux pas habiter à côté. Alors une fois aussi, on arrivait au prieuré. Donc bon, le prieuré est à quand même à 4-5 heures de l'aéroport, donc c'est quand même en voiture là. Et on arrive au prieuré, donc dans la ville de Palamkottai. Et il y a, on arrive, c'est barré, plein de gens partout, ça chante, ça. Bon. Alors l'abbé dit, tiens, il y a quelque chose de spécial. Alors, bon, alors il prend des petites rues, il dit, ah ben, je vais passer par là, etc. Et puis on retombe dans la grande rue, toujours plein de monde partout. Bon, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, c'est pas normal quand même qu'il y ait tant de monde. Puis là-bas, alors oui, entre parenthèses, la conduite, c'est vous avancez donc 50, 60 à l'heure, il y a du monde partout, vous cornez tout le temps, donc tut-tut partout. Alors quand vous ne connaissez pas, vous allez en écraser, je sais pas combien. Et puis au dernier moment, alors ils voient, ils s'écartent, ils ont l'habitude. Donc ils s'écartent, puis ils se remettent derrière. Enfin c'est. Ah, vous êtes là au départ. Bon. Alors on passe, puis il arrive un moment, là on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a un policier. Donc là lui il a pas bougé. Donc on s'est arrêté. Et puis ben non, ben il disait vous pouvez pas parce que c'est la fête de je sais pas quoi. Effectivement, alors devant vous aviez un espèce de grand char rempli de fleurs, plein de fleurs partout. Ça ressemblait un petit peu, si vous voulez, à non, j'étais plus pieux, vous voyez, un char de la fête Dieu. C'est-à-dire qu'on aurait très bien vu, effectivement, plein de fleurs, et puis on imaginait le Saint-Sacrement au-dessus. Donc un reposoir. Eh bien, on était au sommet, vous aviez Bouddha. Bouddha, et plein de fleurs, donc les gens avaient plein de fleurs, et c'était je sais pas quelle fête de Bouddha. Donc ils promenaient Bouddha dans la ville, quoi, si vous voulez. Ah, bon, bah là, du coup, on a été obligé de faire demi-tour, de prendre un autre chemin. Vous voyez, donc, ça vous donne une atmosphère vraiment très, très difficile, quoi, très. Et pourtant, là où on est, dans le sud de l'Inde, on est dans la région où il y a le plus de catholiques, c'est-à-dire à peu près 30% de la population. Voilà, puis donc, vous voyez, ah oui, autre chose aussi. Alors, on s'est promené, et puis il y avait toujours donc, plein de temples, vous voyez, plein de trucs. Puis à un moment, à côté il y a une espèce de temple, et puis il y avait une idole. Donc une idole, hein, non, avec une tête d'éléphant, quoi, un corps d'homme et une tête d'éléphant. Alors, puis vous avez devant des fleurs, des machins, des plein de trucs. Bon, alors je dis aux abbés, bah, vous laissez ça comme ça, on peut. Alors je dis non, bah là évidemment, faut pas s'amuser à jeter ça parce qu'autrement on est tout de suite tué sur place. Bon, je veux bien qu'on meure martyr, c'est sûr. Mais l'abbé alors m'a raconté l'histoire, m'a dit oui, je me suis penché un peu sur l'histoire, donc c'est. c'est Shiva. Alors, il dit, voilà pourquoi ils adorent ce dieu à tête d'éléphant. Il dit, voilà, l'histoire, c'est que, donc, monsieur Shiva, enfin, Shiva qui est dieu, a épousé, donc, une dame. Ils ont eu un fils. Bon. Monsieur Shiva s'en va. Il part faire la guerre ou je sais pas quoi. Bon, il s'en va. Bon, madame Shiva, elle, bah, elle reste et puis elle élève son fils, etc. Et puis au bout d'une vingtaine, bon, disons, vous voyez, entre 15 et 20 ans, il dit, monsieur Shiva rentre de la guerre. Qu'est-ce qu'il rentre? Il rentre à la maison et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa femme et ce jeune homme qu'il ne connaît pas, qu'il ne reconnaît pas. Et premier réflexe, évidemment, il pense que c'était un prétendant auprès de sa femme. Ni l'une d'eux, il prend une épée, il le décapite. Il coupe la tête. Alors madame Shiva tombe en pleurs, mais chérie, voyons, tu savais pas que c'était notre fils? Ah! Oh, pardon! Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais sortir. Et le premier que je rencontre, je le décapite et je lui mets la tête à la place. Et comme ça, je retrouve le fils. Vous imaginez la suite. Il sort, le premier qu'il rencontre, c'est un éléphant. Donc, il coupe la tête de l'éléphant. Il prend la tête de l'éléphant, il le met sur le corps de son fils. Et c'est le fils de Shiva. Donc, ils adorent le chiffre de Shiva avec une tête d'éléphant. Bon, enfin, il faut mieux en rire qu'en pleurer. Donc, ça vous donne un peu l'atmosphère, si vous voulez, de l'Inde. Donc vous voyez un peu le travail qu'ils ont, donc de convertir. Bon, nos fidèles là-bas, ils sont, on en a quand même quelques-uns, mais ils sont vraiment remarquables, quoi. Par contre, dans le nord, donc nous avons une chapelle aussi à Mumbai. Pour vous donner un peu, bon, Mumbai, c'est Bombay, c'est l'ancien Bombay. Les fidèles là-bas, donc j'y suis allé entre deux avions. Je me suis dit bon, quand je devais faire une halte là, je dis bon comme ça, je vais pouvoir dire la messe aux gens. Parce qu'ils ont la messe qu'une fois par mois. Donc ils ont le premier vendredi, le premier samedi et le dimanche. Donc une fois par mois. Et puis ensuite, c'est fini. Donc nos fidèles, voilà, le groupe de Bombay, enfin Mumbai maintenant, n'ont que ça. Et alors bon, donc ils sont contents quand ils peuvent avoir une messe en plus, évidemment. Et ben, je demandais, ben, votre chapelle, comment c'est, etc. Donc la personne m'a expliqué. Donc la chapelle qu'on a là-bas, donc c'est pleine ville, hein, c'est la grande ville de Bombay, il y a je sais pas combien, 15 millions d'habitants, enfin c'est gigantesque. Et on a donc un appartement. Donc c'est dans un appartement qui a été aménagé pour ça, c'est bien aménagé, mais d'extérieur vous voyez rien, vous voyez un appartement dans un immeuble. Et la personne me disait, bah oui voilà, on pourra jamais avoir une église à Bombay. Parce que à Bombay, donc dans le nord, ce sont les hindouistes qui sont au pouvoir et qui sont effectivement très anti-catholiques. Donc on ne pourra jamais avoir la permission. Et même là, la chapelle qu'on a faite, elle est clandestine. Parce que officiellement, donc nos fidèles, ils ont acheté un appartement et ils ont restauré un appartement pour habiter. Mais là-bas, pour éviter les pièges, quand vous restaurez un appartement, vous devez donner les plans à l'administration. Les plans, vous devez tout indiquer. Dire où vous allez, la place de votre évier, vous allez mettre dans votre cuisine votre évier à cet endroit-là. Dans votre douche, vous allez mettre votre douche ici, vous allez mettre le lavabo à tel endroit. Ensuite, le mur, bon là, vous allez mettre un meuble ici, à tel endroit. Donc, vous êtes obligé de tout indiquer. Alors, évidemment, elle a dit, ben, nous, comme on voulait un appartement qui serve de chapelle, donc assez bien, eh bien, on a été obligé de tricher. Et ce qu'il fait, là-bas, enfin, il dit, ben, on a été obligé d'acheter l'administrateur qui supervisait notre appartement. Donc, si vous voulez, ils ont donné un plan, mais qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que ben, la place de l'évier de la cuisine, ben, c'est pas une cuisine, c'est la chapelle, quoi. Donc, ils disent, ben, vous voyez, on est obligé de donner quelque chose, de payer les gens pour qu'ils ferment les yeux, quoi. Vous voyez? Donc vous voyez, on est loin, on n'en est pas encore là en France, mais vous voyez comment ça existe dans ces pays-là. Voilà, si vous voulez, un petit peu pour vous détendre un peu, voilà un peu nos missions dans ces différents pays qui doivent un peu nous stimuler aussi, vous voyez. C'est vrai qu'on peut avoir des difficultés dans notre sanctification, mais pensez un peu aussi à ceux bah, qui se battent pour essayer de transmettre la foi. Donc tout cela doit, je pense, nous donner ce grand désir de perfection chrétienne. Alors déjà, quand vous entendez le mot de vie chrétienne, c'est... Alors perfection chrétienne, même si l'abbé, nous ne sommes pas des religieuses, hein. Donc quand même, perfection chrétienne, vous allez peut-être un peu loin. Non. La perfection chrétienne, malheureusement, souvent, on en a une mauvaise notion. On se dit, la dévotion, la perfection chrétienne, il faut beaucoup de dévotion pour un peu de dévotion. Non, c'est pas ça. Donc c'est pas, ça veut pas dire jeûner tous les jours, avoir des austérités invraisemblables, faire des riches aumônes partout. Non, c'est pas ça la perfection chrétienne. La perfection chrétienne, on en a parlé déjà. Ça consiste uniquement dans l'amour de Dieu et du prochain aimé pour Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. La perfection consiste dans l'amour de Dieu et du prochain aimé pour Dieu. Rappelez-vous cet épisode, un jour, un docteur de la loi demande à notre Seigneur ce qu'il faut pour gagner la vie éternelle. Alors notre Seigneur lui demande, que dit la loi ? Le docteur, sans hésiter... Qu'est-ce qu'il répond ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et notre Seigneur lui dit, fais cela et tu vivras. Et à un autre endroit, il rajoutera, justement, ce précepte de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain constitue la loi et les prophètes. Vous voyez, donc la perfection chrétienne à laquelle nous devons tendre, c'est pas autre chose que l'amour de Dieu et du prochain. Alors pour terminer, justement deux petits moyens. Un des moyens pour atteindre cette perfection, c'est la pureté d'intention. Si vous voulez, la charité se maintient et son intensité s'augmente en nous par le renouvellement de l'intention en vue de laquelle nous agissons. Donc savoir renouveler cette intention. Alors est-il nécessaire que cette intention d'agir par amour pour Dieu, c'est-à-dire procurer sa gloire, en accomplissement de sa volonté, soit toujours actuel. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé d'avoir toujours cette intention régulièrement, en acte ? Non, évidemment. C'est pas requis et c'est impossible. Donc, c'est pas possible de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? De temps en temps, tout simplement, renouveler notre intention. Alors, c'est pour ça que la prière du matin, la prière du soir, dans la journée, de temps en temps, quelques petites prières, oraisons jaculatoires, sont utiles pour essayer de perfectionner notre intention. Alors, pourquoi ? Et ça, Dom Marmion nous donne la réponse. Pourquoi renouveler cette intention ? Parce que la pureté d'intention tient notre âme en présence de Dieu et l'excite à le rechercher uniquement en toute chose. Elle empêche la curiosité, la légèreté, la vanité, l'amour-propre, l'orgueil, l'ambition de s'insinuer, de s'infiltrer dans nos actions pour en diminuer le mérite. L'intention pure, fréquemment renouvelée, livre l'âme à Dieu dans son être et dans son activité. Elle ranime sans cesse en l'âme et entretient le foyer de l'amour divin. Et ainsi, par chaque bonne œuvre qu'elle fait exécuter et rapporter à Dieu, elle accroît la vie de l'âme. Donc l'utilité de renouveler justement cette pureté d'intention. Tout faire, je fais tout, mon Dieu, pour votre amour, pour l'amour du prochain. Et un autre moyen d'atteindre la perfection aussi, cette perfection de charité, c'est se rappeler, c'est tout simple, qu'aucune action n'est exclue du domaine de la grâce. Aucune action n'est exclue du domaine de la grâce, de la charité, du mérite. Toutes nos actions peuvent servir à l'augmentation en nous de la vie de Dieu. Et là aussi, vous avez saint Paul qui le dit très bien. Épître, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, là aussi, Dom Marmion, donc ça c'est dans le Christ vie de l'âme aussi, fait un très beau commentaire. Vous le voyez, non seulement les actions qui de leur nature se rapportent directement à Dieu, comme les exercices de piété, l'assistance à la messe, etc., la réception des sacrements, mais encore les actions les plus ordinaires, les plus banales, les incidents les plus vulgaires de notre existence quotidienne, comme prendre de la nourriture, vaquer à ses affaires ou à ses travaux, remplir dans la société ses diverses obligations, se délasser, s'abandonner au repos, toutes ces actions qui reviennent chaque jour et tissent littéralement dans leur monotone et routinière succession la trame de notre vie entière, peuvent être transformés par la grâce et l'amour en actes très agréables à Dieu et riches en mérite. C'est comme le grain d'encens, un peu de poussière sans consistance, mais lorsqu'il est jeté dans le feu, il devient un parfum agréable. Donc, vous voyez, toutes ces petites actions quotidiennes offertes à Dieu, eh bien, nous obtiennent de nombreuses grâces. On monte dans l'amour de Dieu. Ainsi, on peut dire vraiment, la vie chrétienne est simple. Elle est simple et sublime. Dieu ne vous demande pas d'accomplir de multiples actes héroïques pour être ses enfants. Non, c'est pas vrai. Voyez, on revient, on termine tout simplement par cette simplicité. Rappelez-vous, la première conférence, on parlait de la simplicité de Dieu, il fallait y tendre. Eh bien, toute notre vie chrétienne est très simple, il faut tendre à cette simplicité. Toutes nos actions, les plus petites actions quotidiennes, eh bien faites-les pour l'amour de Dieu et vous en obtiendrez de nombreuses grâces et mérites. Vous voilà donc armés avec cette retraite de vie chrétienne. Et avec la grâce de Dieu, eh bien vous serez évidemment fidèles. Fidèle, fidélité de chaque jour. Et pour conclure, eh bien là aussi, je laisse encore une fois la parole à Don Marmion. Nous ne devons pas changer de nature, mais redresser ce qu'elle a de défectueux. Nous ne devons pas user de formules longues. L'intensité de l'amour peut tenir dans un seul regard du cœur. Il nous suffit de demeurer dans la grâce sanctifiante, de tout rapporter à Dieu et à sa gloire par une intention pure, et dès lors de vivre en homme à la place que la Providence nous a assignée, en accomplissant la volonté divine, en remplissant le devoir du moment présent. Et cela, simplement, paisiblement, sans agitation, sans fièvre, avec cette confiance intime et profonde, faite de liberté d'âme et de joie intérieure, de l'enfant qui se sent aimé de son père, et lui rend cet amour dans la mesure de sa faiblesse. Voilà, très belle conclusion de Don Marmion. Eh bien, je crois que c'est cette grâce qu'il faut demander tout simplement, bien sûr, par la très sainte Vierge Marie, et qu'elle vous aide ainsi à mettre en pratique toutes vos bonnes résolutions, et qu'elle vous fasse toujours aimer davantage, eh bien, son divin Fils, et qu'ainsi nous puissions tous un jour nous retrouver dans le royaume du ciel. Voilà, maintenant nous pouvons aller chanter Complis.